Transfiguration et transmutation. Le processus de la naissance d'un nouveau type humain par Francisco Casanueva Freire. Chapitre 1. La montagne de l'esprit. Introduction. Parler du but, des objectifs de l'école de la Rose-Croix d'Or est relativement simple. Expliquer qu'il s'agit de parvenir à un état de vie immortel, à un état de conscience libre de toute forme d'illusion et de dépasser positivement toute forme de peur, d'inquiétude et de crainte, est chose facilement compréhensible. Car qui pourrait préférer la mort à la vie, la peur au bonheur, et qui ne serait pas d'accord pour dire qu'il s'agit là de buts magnifiques? Mais n'y a-t-il pas déjà sur cette planète beaucoup, beaucoup trop de groupes qui proposent de semblables objectifs? Cependant, il n'est pas seulement question de présenter des objectifs, mais plutôt les moyens pour les atteindre. Car un objectif peut être sublime, mais s'il n'est pas réalisable dans la pratique, à quoi cela sert-il de le défendre? Nous pensons en outre que le fait de proposer des objectifs irréalisables, c'est-à-dire des objectifs qui soient justes, mais avec des méthodes erronées, inadéquates ou irréalistes, impossibles à appliquer, est le meilleur moyen de créer malheur et anxiété. Il est donc très important d'aborder l'essence même de la méthode de la Rose-Croix, car nous sommes tous des êtres humains d'aujourd'hui, c'est-à-dire des personnes ayant développé une extrême capacité logique-analytique et qui par là même ont laissé en chemin une grande part de leur intuition et ont perdu le sens magique de la vie. Par conséquent, il se peut que nous décidions d'entreprendre quelque chose, d'assumer quelque chose ou simplement d'avoir de la sympathie pour quelque chose que nous ne soyons pas capables de comprendre avec notre intellect. De même, lorsque l'intellect établit la justesse de quelque chose, cela ne signifie pas pour autant que nous soyons sur la même longueur d'onde que cette chose. Pour qu'il en soit ainsi, il est de plus nécessaire que notre cœur, la structure fondamentale de nos sentiments, accepte également la vérité de ce qui est proposé. Or cela, il le fait selon sa propre logique, généralement incompréhensible pour l'intellect. Enfin, il est aussi nécessaire que la volonté, la source essentielle de notre énergie vitale, se mobilise avec persévérance, avec une intention et une orientation ferme et pure. Ce circuit triangulaire, compréhension rationnelle, sentiment et volonté, est le mécanisme central de notre vie, et c'est pour cela que la Rose-Croix envisage un processus initial également triple, que nous nommons les trois premières marches de la gnose quintuple. Nous en déduisons que la quatrième marche représente la pratique elle-même et la cinquième, l'atteinte du but. Dans le chapitre qui suit, nous allons nous concentrer sur la première marche, celle de la compréhension rationnelle ou du discernement relatif à la méthode de l'école spirituelle moderne. Soulignons encore un aspect essentiel. En général, quand nous parlons de méthode, nous faisons allusion à des techniques, pratiques et exercices. Ce qui veut dire qu'en faisant telle ou telle chose, ou en étudiant beaucoup, nous atteignons le but proposé. Souvent, il est même ajouté « sans effort ». La méthode de la Rose-Croix est une méthode qui requiert des efforts, qui n'est pas facile et qui demande en outre un maximum de notre temps disponible, c'est-à-dire toute notre vie. Comme vous pouvez le constater, notre souhait ici est d'être le plus clair possible et de parler avec une totale transparence. Vous comprendrez que le fait d'accéder à un état de vie si élevé, ou tout du moins de s'en approcher le plus possible, n'est pas quelque chose à considérer comme une simple distraction pendant notre temps libre. Vous savez par expérience que plus le but que l'on se propose d'atteindre est élevé, plus importants seront l'effort et le temps que nous devrons y consacrer. Et pourtant, nous ajoutons aussi que l'activité qui conduit au but de la Rose-Croix ne requiert rien de spécial. C'est-à-dire que quiconque met en pratique la méthode de notre école a une façon de vivre identique à celle de tout un chacun. Nous travaillons, nous avons une famille, et comme tout le monde, nous sommes absorbés du matin au soir par notre désir de survivre dans la jungle de la société de consommation. Cette pratique ne requiert pas non plus une formation culturelle, intellectuelle ou professionnelle particulière, ni un niveau financier élevé. Peut-être vous demandez-vous maintenant, alors de quoi s'agit-il ? Si d'un côté on nous dit qu'il faut y consacrer tout son temps, et que de l'autre on nous dit n'avoir rien à lui consacrer, comment faut-il comprendre cela ? Cette question met en évidence un terrible paradoxe, et en effet, ce que nous vous disons est paradoxal. Pour cette raison, prenons appui sur les grands maîtres des paradoxes, les maîtres zen, et plus concrètement le patriarche bouddhiste chinois, Yongmei, du VIe siècle avant Jésus-Christ, qui dit ceci. Notre méthode est l'absence de toute méthode. Ce que nous décrivons comme méthode est en réalité l'absence de méthode. Nous ne devons rien faire de particulier pour atteindre le but, et une méthode sans rien de particulier à faire est toujours la véritable méthode. Cela signifie que l'application de la véritable méthode, c'est n'appliquer rien de particulier. Nous espérons qu'à la lecture de cet ouvrage, vous parviendrez à vous forger une première idée, simple mais profonde, de la nature du travail auquel nous faisons référence. L'ascension de la montagne sacrée. En tout temps et en tout lieu, l'image de la montagne fut utilisée comme symbole du chemin spirituel et son sommet comme celui de l'aboutissement du processus d'un couronnement. Depuis l'Inde ancienne avec le mont Meru, situé par certains au pôle Nord et par d'autres dans l'Himalaya, en passant par le mont Arara de Noé, l'Horeb ou le Sinaï, lieu sur lequel Moïse reçut les tables de la loi, le mont Tabor où Jésus transfigura, ou encore les monts des Oliviers et du Golgotha, une longue série de monts et de montagnes ont toujours représenté, de par la logique de leur forme, l'état le plus élevé que l'être humain puisse atteindre. Elles illustrent aussi les difficultés inhérentes à toute ascension, les efforts que doit fournir tout voyageur en route vers la lumière. Dans d'autres cultures, le mont naturel est remplacé par un mont érigé par l'homme, comme les pyramides d'Égypte ou d'Amérique centrale, par exemple. Plus proche de nous, nous trouvons Montségur pour la tradition cathare et Montréal de Sos pour la tradition du Graal. Et Jean de la Croix, parlant de la même et unique réalité à propos du mont Carmel, écrit « La montagne de l'esprit, masculine par sa verticalité et féminine par son inviolabilité. » Il y a cependant un facteur essentiellement ésotérique dans ce symbole sacré. La montagne de l'esprit est dans ce monde, au milieu de ce monde, et elle possède une structure matérielle. L'ascension doit donc être réalisée par des êtres vivants. Ceci exclut totalement la supposition erronée selon laquelle le chemin spirituel serait un processus postérieur à la mort du corps physique. Entrer dans le chemin spirituel et en commencer l'ascension sont deux actes qui doivent être réalisés ici et maintenant. Si notre existence actuelle devait prendre fin avant que nous n'ayons atteint le sommet, il nous serait possible alors de poursuivre l'ascension dans les plans supérieurs de notre planète. Mais pour cela, il faut avoir déjà établi un contact sensoriel avec le but. Il est essentiel que vous gardiez toujours présent à l'esprit cet axiome de notre philosophie. La double pyramide septuple. Une école spirituelle est aussi représentée par une montagne ou une pyramide. En ce qui concerne l'école spirituelle de la Rose-Croix d'Or, nous parlons d'une double pyramide septuple, composée d'une structure visible et d'une autre invisible, chacune d'elles étant septuple. La lecture de cette brochure place son lecteur au pied de la montagne formée par l'école de la Rose-Croix d'Or et précisément à l'extérieur de sa structure invisible septuple. Par ailleurs, comme vous le savez, les grandes ascensions requièrent une importante phase préalable concernant, tout d'abord, les préparatifs, Il ne s'agit pas seulement de réunir les vivres et les vêtements nécessaires, mais également d'être dans une forme physique adéquate. Ensuite, le recueil d'informations fiables relatives au trajet, telles que des références sur les personnes l'ayant déjà parcouru. Enfin, pour tenir compte de l'acclimatation nécessaire au cours de l'ascension, la prévision de divers campements intermédiaires avant l'arrivée au sommet. L'argument de base de la transfiguration repose sur le fait que notre personnalité, c'est-à-dire l'ensemble des corps visibles et invisibles qui la composent, et sont en interrelation à l'intérieur de notre corporéité matérielle, est le fruit de la nature biologique de cette planète. Celle-ci s'exprime au moyen des forces séminales masculines et féminines qui, par leur union, donnent naissance à l'homme et la femme que nous sommes. C'est dans cette personnalité que s'incarne l'étincelle divine, le noyau de l'être spirituel. Cette étincelle divine est l'expression individualisée de la divinité universelle. Lorsqu'elle s'incarne dans la personnalité, c'est une semence différente de la semence biologique qui s'y manifeste. Pour que cette graine d'être humain divin puisse germer, elle doit entrer en contact avec le fluide sanguin de la personnalité. Elle ne peut cependant le faire que si celui-ci possède un niveau élevé de pureté et de luminosité. Toute personne qui mène une vie pleine de convoitise et de passion, a fortiori si sa conduite dénote une absence totale de sens éthique, ne saurait disposer d'un fluide sanguin adéquat pour cette intention de germination. La plupart du temps, cette graine ne sort donc pas de sa léthargie pendant toute la période de son incarnation. Il s'agit en conséquence et en tout premier lieu d'atteindre un état sanguin adéquat qui puisse permettre la germination de la semence de l'esprit en nous. Ceci constitue la première phase du processus de la transfiguration. Supposons que cette première étape ait lieu. Alors, à partir de ce processus de germination, nous voyons surgir dans l'être humain une nouvelle structure de ligne de force extrêmement lumineuse, ressemblant à une magnifique sphère dont les points de concentration sont parfaitement connectés. Lorsque nous observons une plante, nous voyons sa partie visible, la structure formée par le tronc, les branches, les feuilles, les fleurs et les fruits. Nous pouvons aussi imaginer la partie invisible constituée par les racines dans la terre comme étant exactement le symétrique de la partie perceptible à nos yeux. Nous voyons alors globalement une structure très complexe, plus ou moins sphérique, qui a surgi de la graine. Il en est de même avec la semence de l'étincelle divine. Une structure plus ou moins sphérique et très complexe jaillit d'un noyau unique central et forme le système osseux, nerveux et circulatoire d'un nouveau corps. Son centre se trouve dans le cœur de notre corps physique. Vers ce centre convergent les deux êtres qui nous constituent, la personnalité naturelle et l'être spirituel. Celui qui prend conscience de son état d'être double et de la cohabitation en lui de deux foyers de vie, l'un périssable et l'autre immortel, entre alors dans la deuxième phase du processus. Les deux premières étapes se déroulent au pied de la montagne de l'esprit, tandis que la phase suivante, la troisième, marque le début de l'ascension. Cette troisième phase est l'une des plus compliquées, car le grimpeur prend progressivement conscience que dire est une chose, mais que faire en est une autre, que l'assimilation théorique est très différente de la réalisation pratique. Précédemment, lors des deux premières phases, le processus n'exigeait pas de participation active consciente particulière, comme c'est par exemple le cas pour la formation et le développement du bébé dans le sein de sa mère. Mais la situation change totalement à la naissance du bébé. Les deux êtres en nous interagissent au niveau du système nerveux neurovégétatif et du subconscient, ce qui a déjà des effets notables sur notre vie quotidienne. Le marcheur au pied de la montagne de l'esprit ignore cependant l'origine des pensées, sentiments et intuitions qui surgissent inopinément dans sa conscience. Il les trouve étranges autant qu'inhabituels. Il s'intéresse à des choses sans importance pour le commun des mortels et qui, de plus, n'ont aucune signification pour sa vie matérielle. Mais le voici maintenant arrivé au campement de base, sur les contreforts de la montagne, où un petit groupe de personnes décidées se prépare à l'ascension. Dans ce premier campement, on contrôle l'équipement et on vérifie que les conditions de base requises pour la montée soient bien réunies. La première partie du chemin le conduit jusqu'à mi-hauteur de la montagne. Elle n'est pas très difficile, mais elle est longue. Nos muscles commencent à souffrir, nous nous sentons à l'étroit dans nos chaussures. Tantôt il fait très froid et nous ne sommes pas assez couverts. Tantôt il fait trop chaud, mais on ne peut rien y faire. Alors, inévitablement, nous viennent et nous reviennent à l'esprit les questions suivantes. Qu'est-ce que je suis venu faire ici? J'étais si tranquille à la maison. En plus, je ne vois pas du tout le sommet. Que peut-il bien y avoir là-haut? Et si on m'avait trompé? Et si tout ça n'était qu'un leurre de plus? Cet état d'esprit se trouve aussi chez les autres grimpeurs, car de telles pensées vont et viennent dans les groupes de marcheurs débutants, passant de l'un à l'autre. Voilà pourquoi cette troisième phase de l'ascension est celle de l'épreuve. Enfin, une partie des grimpeurs arrive au deuxième campement, établi à mi-hauteur. La quatrième phase commence alors. C'est la phase intermédiaire, l'échelon central de l'échelle à 7 degrés. Au cours de la troisième phase, nous avons vécu une intense épuration dans les processus psychiques relatifs à la peur, au doute et à l'orientation de la vie. Certains mécanismes qui se trouvaient jusqu'ici totalement sous la domination du moi personnel, avec toutes les peurs, les faiblesses et les ignorances qui forment notre égocentricité, ont été remplacés par un état d'âme nouveau. En effet, si nous sommes arrivés jusqu'au deuxième campement, au début de la quatrième étape, c'est parce que nous avons su imposer des limites à notre interminable activité analytique basée sur une série quasi infinie de suppositions, et aussi parce que nous avons démasqué une partie de nos peurs, celle qui nous empêchait le plus d'agir. Dès lors, en nous s'est développée une disposition à aider les autres, et en particulier ceux qui nous accompagnent dans notre ascension. Tout cela a permis un rapprochement important des deux structures corporelles en notre être. Elles ont déjà en commun quelques circuits, en particulier le système hormonal, qui, comme vous le savez, est très en relation avec notre état d'âme et notre vitalité. Cependant, notre conscience continue à être entièrement limitée à l'intérieur de la personnalité naturelle, et c'est dans cet état que nous arrivons au deuxième campement. Pour la première fois, nous ressentons les effets de l'altitude. La composition de l'air que nous respirons a changé. Une atmosphère différente règne sur ce campement. Cette nouvelle atmosphère a un effet de frein sur l'habituelle agitation intérieure de l'être humain moderne. Elle insuffle en lui la nécessité de prendre les choses avec calme, avec sérénité. Devenons plus réfléchis, plus enclins à méditer, à appréhender les choses en profondeur. Ce qui est extérieur n'exerce plus sur nous une attraction aussi intense, ou du moins ne nous interpelle plus autant. L'aspect théorique de l'ascension est dépassé. Maintenant, l'expérience pratique existe réellement. Nous pouvons désormais constater que tout ce qui nous est arrivé jusque-là s'est déroulé selon les explications données avant l'ascension par les marcheurs plus expérimentés. Et cela nous donne encore plus confiance dans le projet. Il se passe alors quelque chose de très important. Dans un moment de sereine méditation où nous sommes adossés à un rocher, le regard perdu dans les hauteurs, mais en réalité orienté vers l'intérieur de soi, nous voyons soudain les nuages s'écarter et le temps d'un instant, nous apercevons le sommet de la montagne. C'est un moment fugace car les nuages reviennent très vite encercler le sommet. Nous nous frottons les yeux, pensant que nous avons rêvé. Mais non, ce n'est pas un rêve. La cime enneigée nous est bien apparue là-haut, dans toute sa splendeur, dans une intense blancheur réfléchissant irrésistiblement la lumière d'un autre soleil, un soleil différent de celui que nous connaissons. Le grimpeur se lève d'un bond. Il aimerait se mettre en chemin tout de suite. Mais les instructeurs, conscients de ce qu'il vient de vivre, lui disent avec l'habituel humour des grimpeurs spirituels que tout en haut, il est impossible de respirer, qu'il doit encore développer de nouveaux poumons. Comme vous le savez sûrement, les poumons ont une fonction essentielle dans la vie. Leur sens ésotérique recouvre une telle signification qu'un livre entier serait à peine suffisant pour en montrer l'importance. Ce que nous pouvons déjà dire, c'est qu'ils jouent un rôle essentiel dans tous les mécanismes de formation de notre conscience. C'est ainsi que dans la quatrième phase, le grimpeur développe la capacité de respirer dans l'atmosphère du monde spirituel, sans pour autant perdre la faculté de respirer dans l'atmosphère ordinaire de notre monde. Par conséquent, trois aspects se développent au cours de cette phase. D'une part, la perception de son propre monde intérieur et de la première lueur du sommet. D'autre part, la structure de ligne de force de l'être spirituel. Cette structure englobe déjà complètement la personnalité biologique en une interaction intense avec celle-ci, même si le système cérébro-spinal et les processus de la conscience continuent à être imperméables à son influence. Sans aucun doute, cette première perception du sommet a été ressentie comme un tremblement de terre par le lacis des certitudes intellectuelles. Le « je sais que je ne sais pas » commence à s'établir en tant qu'attitude, tandis que simultanément se dissout le noyau de la vanité humaine. Enfin, un intense sentiment de solidarité commence à se développer avec ceux qui, dépourvus d'orientation et de guide, errent encore dans la vallée. Nous nous rappelons notre passé et nous constatons les profonds changements qui se sont opérés dans notre propre être, alors même que nous n'avons parcouru que la moitié de la montagne. Et dans notre mental, surgissent de nombreuses idées sur la façon de leur venir en aide. La miséricorde spirituelle naît en nous. Lorsque tous ces processus, et d'autres encore que nous ne mentionnerons pas pour le moment, ont atteint un point de maturation déterminé, l'invitation à entrer dans la cinquième phase retentit. Cette phase est essentielle car nous devons entièrement transpercer l'anneau de nuages pour arriver au troisième campement. Or, celui-ci n'est pas visible depuis le deuxième campement et nous ne distinguons pas non plus très bien le chemin qui y mène. En effet, il n'existe pas de chemin clairement tracé car les conditions ne le permettent pas. Certains passages frayés auparavant sont aujourd'hui recouverts de neige, d'autres de pierre. En outre, pendant la traversée de ces zones nuageuses à visibilité restreinte, des orages éclatent fréquemment, nous obligeant souvent à modifier notre trajet. Dans ces moments-là, les idées arrêtées ne sont d'aucune utilité, et il faut improviser à partir des valeurs acquises au fil de notre progression. Le plus important, c'est de maintenir le contact visuel avec nos compagnons de route, car dans cette phase, s'isoler ou se perdre peut nous être fatal. Cette cinquième phase fut décrite au Moyen-Âge comme étant la conquête du Saint Graal. C'est une phase de combat d'efforts intenses qui nous poussent à aller jusqu'à la limite de nos possibilités. Le troisième campement est le château du Saint Graal. Concrètement, l'épaisse couche de nuages qui le recouvre agit en fait comme un intense brouillard à travers lequel affluent en nous toutes les illusions, tous les fantasmes que nous hébergeons dans notre inconscient. Et là, nous devons lutter contre eux, tel un authentique chevalier de la table ronde. Cette étape est en relation avec l'ouverture du système nerveux cérébro-spinal et son intégration dans le processus de la transfiguration. Le grimpeur spirituel arrive alors au troisième campement. C'est là qu'il reçoit la couronne. Tout le système cérébral s'ouvre à la lumière qui l'inonde. Ce qui auparavant était deux est devenu un. L'être naturel de la personnalité et l'être spirituel né de l'étincelle divine fusionnent en un seul corps. La mort est vaincue. Le grimpeur est à présent un être libre. Quant à la sixième et à la septième étape de l'ascension, il ne nous est pas permis de donner trop de détails, mais nous pouvons toutefois préciser la chose essentielle suivante. Tout le travail qui s'y effectue se rapporte à l'aide très particulière envers tous les êtres humains se trouvant encore dans la vallée. Le quintuple chemin de la gnose universelle est ainsi réalisé avec l'arrivée au troisième et ultime campement, couronnement de la cinquième étape. À partir de ce campement, il n'est pas difficile d'atteindre la cime, mais il n'est pas pour autant question d'y demeurer. Ainsi, au cours du processus de la transfiguration, la forme intérieure, la structure et la configuration de la personnalité ont été transformées, transmutées et transfigurées tout au long des phases de l'ascension, et ce, jusqu'au-delà de la couche de nuages. Pour les autres, l'apparence de la personne est restée la même, mais à l'intérieur d'elle se sont produites de multiples modifications très subtiles, exerçant néanmoins une influence très profonde sur les processus vitaux et sur la conscience. Chapitre 2. La lumière s'incarne dans l'être humain. Introduction. Dans le chapitre précédent, nous avons ébauché une image générale du processus et pour cela, nous avons utilisé l'exemple de la montagne et des grimpeurs. Nous avons essentiellement abordé les aspects individuels du sujet en restant axés sur les deux êtres qui coexistent dans notre personnalité, l'être biologique et l'être spirituel, issus de natures et de semences différentes. Nous allons à présent faire un pas de plus en confrontant, sur le plan des radiations et des structures atomiques, la dimension cosmique et sa contrepartie. La lumière a toujours été un symbole récurrent pour représenter l'action des forces divines. Toutefois, la science moderne est en train de découvrir qu'en fait, elle ne serait pas un symbole, mais la réalité elle-même. C'est pourquoi nous allons fournir quelques éléments scientifiques qui serviront à illustrer notre thème. Transfiguration ou métamorphose. Le sommet de la montagne ne peut être perçu depuis la vallée. C'est impossible du fait qu'il est toujours encerclé par une épaisse couche de nuages. Ces nuages représentent la vie de nos désirs et de nos émotions, de notre pensée limitée et fondée sur des suppositions et des conjonctures. L'effort pour purifier la vie des pensées et des sentiments est donc en soi l'ascension de la montagne et, dans la même mesure où les ombres se dispersent, toute sa majesté se dessine sur la hauteur. Et au sommet, la lumière de l'esprit s'unit à la lumière qui émane du grimpeur. Comme nous l'avons déjà dit, la méthode de la Rose-Croix est la transfiguration. Le terme transfiguration n'apparaît nulle part dans l'Ancien Testament, et seulement à deux reprises dans les Évangiles, au chapitre 17 de l'Évangile de Matthieu et au chapitre 9 de celui de Marc. Le mot grec figurant dans les premiers écrits évangéliques est celui de « métamorphosis ». Dans la tradition grecque, il est utilisé pour décrire le processus par lequel les dieux transfigurent en homme afin d'être au milieu d'eux, pour se rendre visible ou pour atteindre leur objectif. Il arrive parfois qu'ils empruntent une forme humaine pour traiter avec les hommes, ou bien une forme animale, ou encore celle d'un lac ou d'une rivière. Dans ce type de métamorphose, l'identité essentielle des dieux et déesses est recouverte par une forme, par une apparence déterminée, qui n'a aucune incidence sur leur nature réelle. De nombreuses formes de métamorphose se produisent également dans la nature. On peut par exemple considérer les changements d'état de l'eau en fonction de la température comme des métamorphoses. Mais il en est d'autres beaucoup plus frappants. Au Moyen Âge, les cathares utilisaient couramment l'image de la chenille qui se transforme en papillon. Ce phénomène, facilement observable dans la nature, non seulement illustre parfaitement le thème de la transfiguration, mais donne en même temps l'image d'un être rampant à terre qui se transforme en être aérien, tout comme l'homme terrestre est appelé à devenir un homme céleste. Personne ne songeait à considérer comme un miracle ce développement de la vie ordinaire. Certaines légendes font aussi allusion à ce processus de transfiguration. C'est le cas par exemple d'un conte bien connu, celui de la Belle et la Bête, dans lequel un crapaud se transforme en prince grâce au baiser d'une jeune fille noble. La Belle, tout comme la jeune fille, est le symbole de l'âme immortelle qui, par sa force d'amour, transfigure l'homme terrestre. Toutes ces croyances, mythes et légendes évoquent un processus réel qui n'a rien de miraculeux. Au cours de la métamorphose spirituelle, la forme extérieure, c'est-à-dire notre apparence corporelle, n'est pas particulièrement affectée par le processus. Du moins, les changements apparents sont si ténus que seule une personne qui ne nous aurait pas vus depuis des années pourrait les remarquer. Mais pourquoi parlons-nous de transformation si en réalité la forme ne change pas? Nous avons tous déjà vu ces édifices dont les anciennes façades, emblématiques d'une certaine époque, sont laissées intactes, tandis que l'intérieur est démoli et entièrement transformé selon l'architecture moderne. De la même manière, la forme extérieure, ce que nous appelons notre corps, n'est en réalité qu'une illusion d'optique. Notre cerveau ne peut pas appréhender la forme véritable des choses, leur structure réelle. Dans le plan de vie où se déroule notre existence, la matière a une fréquence vibratoire très basse, ce qui provoque une très grande résistance au passage de la lumière et produit les couleurs et les ombres que nous percevons ordinairement. De plus, nos sens ne captent qu'un spectre très limité de fréquences, et par conséquent, notre cerveau ne reçoit que des parcelles, des impressions fragmentaires de la réalité environnante. C'est à partir de ces fragments qu'au fil des millénaires, l'humanité a édifié une image du monde. Cette image nous a été donnée de multiples façons, par transmissions successives. Le résultat en est une codification très conditionnée qui fut établie bien avant que nous ayons reçu la capacité de raisonner. Voilà pourquoi les scientifiques modernes nous disent que la réalité que nous percevons est le résultat de la projection de notre propre conscience sur notre entourage, sur l'univers qui nous entoure. Et voilà aussi pourquoi seules les mentalités les plus brillantes pourraient déchirer ce filet de conditionnement. Car pour ce faire, il faut une énergie personnelle incroyablement puissante, une forte ténacité et bien sûr de puissants instruments si l'on veut établir de nouveaux concepts sur le comportement de la matière dans l'univers et ses caractéristiques spatio-temporelles. Tout cela confirme ce que les sages de toutes les époques ont affirmé. La réalité telle que nos sens la perçoivent est une illusion. Si vous prenez le gland d'un chêne dans votre main et, le montrant à quelqu'un, vous dites « Regardez le magnifique chêne que j'ai dans mes mains », vous vous exposez à être immédiatement repris et corrigé par votre sagace interlocuteur. Pourtant, votre phrase serait juste si vous perceviez ce gland avec les yeux d'un être humain ayant parcouru le chemin de la transfiguration. Car pour un tel être, le temps qui passe prend une signification tout autre et au fond, ce qui sépare le gland du chêne de l'arbre sorti de la terre n'est rien d'autre que le temps qui passe.